Alors bonjour, je m'appelle Marie-Monique Robin. Je suis réalisatrice, journaliste et écrivaine. Voilà, c'est trois métiers que je revendique, qui sont liés, mais chacun apporte quelque chose de différent. Voilà. Et ça fait près de 40 ans que je fais ce travail. J'ai réalisé beaucoup de documentaires, de reportages pour la télévision, plus de 200 déclarés à la Société civile des auteurs multimédia. Donc voilà. Et je viens de publier mon 12e livre, voilà. Et depuis que je fais ce travail, je m'intéresse à une seule question, c'est la question des droits humains. Voilà.
Bonjour et bienvenue dans cette 27e émission de Du Poil sous les bras, et je suis ravie que mon invitée soit Marie-Monique Robin. Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Le Monde, selon Monsanto, c'était elle, notre poison quotidien encore elle, et aujourd'hui c'est d'un essai dont nous allons parler, La fabrique des pandémies, un livre écrit en collaboration avec un zoologue parasitologue, Serge Morand, un livre paru aux éditions La Découverte et qui relate des entretiens que Marie-Monique Robin a eus avec plus d'une soixantaine de chercheurs et de chercheuses du monde entier en 2020. Et ce n'est pas un livre à suspense. Dès les premières pages, on connaît la fin. Nous, les humains, les humaines, allons faire face à une épidémie de pandémie. On peut même dire que nous faisons déjà face, puisque cela a commencé. Tout l'intérêt du livre réside dans le pourquoi et le comment de ces épidémies. Les chercheurs, chercheuses nous livrent des explications, des informations différentes à chaque fois et qui convergent inlassablement vers la même conclusion. Nous créons les pandémies. Loin d'être pessimiste, et d'ailleurs Marie-Monique Robin ne l'est pas, ce livre invite à repenser notre rapport à la nature et aux animaux, à mettre l'écologie, la science de l'équilibre, au cœur de nos vies. Alors voilà, mettez le masque, parce que c'est une émission pleine de virus, de parasites, d'agents infectieux et pathogènes que je vous propose. Mais c'est aussi, comme d'habitude, une émission souriante et vivifiante, grâce à une invitée qui en a sous les aisselles.
Du poil sous les bras. La petite blanche dans du poil sous les bras.
Je me suis toujours beaucoup intéressée évidemment à l'écologie, à l'environnement, à l'agriculture, à l'avenir de la planète et plutôt, il faudrait plutôt dire de l'humanité sur cette planète parce que je dis toujours que la planète, quand on sera plus là, elle se dira ouf, bon débarras. Quels parasites, ces humains? Ça tombe bien parce que mon livre parle beaucoup de parasites, comme vous avez pu remarquer. Alors en fait, je suis tombée sur ce sujet un peu par hasard, parce que je lis beaucoup de presse, et puis je suis tombée sur un article du New York Times en janvier de l'année dernière, donc c'était avant le premier confinement, qui disait « We made the pandemic », c'est nous qui avons fait la pandémie. Et j'ai lu cet article, je me suis dit « Tiens, c'est quoi ça ?» Alors évidemment, je me suis toujours intéressée, enfin ça fait longtemps que je m'intéresse à la biodiversité, évidemment, mais je n'avais jamais envisagé sous cet angle-là, en fait. Et j'ai fait ce que je sais très bien faire, plonger dans Internet, repérer des noms scientifiques, et le premier sur lequel je suis rapidement tombée, c'est Serge Morand, qui est associé à l'écriture de ce livre, qui a écrit les encadrés techniques dans le livre, qui est un chercheur du CNRS et du CIRAD, qui est un organisme de recherche pour le développement. Il vit en Thaïlande. Et donc, je l'ai appelé. Et il m'a dit, c'est super, parce que nous sommes des dizaines de scientifiques dans le monde entier qui sonnons la sonnette d'alarme depuis une vingtaine d'années. Et on ne nous entend pas. Et ce serait super si vous arriviez à nous rassembler tous dans un ouvrage. Enfin, d'abord, j'ai pensé d'abord à un film, hein. Et puis, évidemment, avec le confinement, c'était très difficile de voyager, donc j'ai commencé par écrire le livre, ce qui est l'inverse de ce que je fais d'habitude. Et voilà, et Serge Morand m'a ouvert son carnet d'adresses, ça a été vraiment très précieux, son aide. Et puis voilà, petit à petit, j'ai réussi à interviewer 62 scientifiques qui sont virologues, parasitologues, infectiologues, épidémiologistes, anthropologues, sociologues, médecins, vétérinaires, enfin, qui ont des disciplines très variées. Et qui sont tous excellents dans leur discipline, mais qui aussi partagent une conviction, c'est que le meilleur antidote contre la prochaine pandémie, c'est de préserver la biodiversité. Voilà. Et quand on dit ça comme ça, on dit bon, d'accord, mais en fait, c'est moi, je les ai donc interviewés, ils viennent des 5 continents, ils ont publié des dizaines d'études dans de très bonnes revues scientifiques. Ils montrent véritablement comment la biodiversité protège la santé, et c'est parce que nous détruisons la biodiversité que des agents pathogènes hébergés par des chauves-souris, par exemple, depuis la nuit des temps, deviennent subitement un risque pour la santé des humains. Voilà.
Il y avait danger, il y a désormais un risque avéré. Détruire la biodiversité, c'est détruire la vie. C'est clair pourtant. Ceux qui veulent croire que cela ne détruit que la vie animale quand on détruit la biodiversité, oublient que nous sommes des animaux presque comme les autres. Certes, on peut sembler plus éveillé qu'un poisson rouge, et encore pas tout le monde, mais sans ce poisson rouge, c'est toute la chaîne de la vie qui est perturbée. Aucun organisme vivant n'est là par hasard, il a un rôle à jouer. Mais la notion de biodiversité continue de paraître abstraite à certains qui continuent de ne pas vouloir voir le lien entre les actions humaines et la perte de biodiversité. Pourtant, on ne parle pas de religion, on parle de lien, de cause à effet, scientifiquement prouvé. Tout cela est très concret.
Ah, bien sûr, alors évidemment, la perte de biodiversité, il y a toujours un côté émotionnel. Tout le monde se dit, bon, évidemment, c'est pas cool, les oiseaux disparaissent, les pandas sont en danger d'extinction, etc., etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des mécanismes très particuliers, des mécanismes écologiques, hein, qui ont été mis au jour par ces scientifiques, donc notamment les 62 que j'ai interviewés, mais il y en a plus que 62, hein. Moi j'en ai choisi 62 parce qu'à un moment il faut s'arrêter, hein, et qui montrent concrètement comment ça marche. Et en fait, pour comprendre, d'abord il faut savoir que les agents pathogènes, qui peuvent être un risque pour les humains, sont hébergés dans des réservoirs animaux. Les trois principaux réservoirs, ce sont d'abord les rongeurs, ensuite les primates et enfin les chauves-souris. Et ces animaux, ben, hébergent des virus, des bactéries, des parasites depuis la nuit des temps. Alors certains ont donné lieu à des maladies qu'on connaît bien, etc. Mais la plupart de ces virus ou ces agents pathogènes sont restés là sans embêter personne, si j'ose dire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces agents pathogènes ne sont pas distribués n'importe comment sur la planète. En fait, plus on descend vers les tropiques, plus la biodiversité est grande, en biodiversité animale, végétale, et donc plus il y a d'agents pathogènes potentiels, parce que voilà, ils sont hébergés par ces animaux sauvages. Donc, c'est dans les pays tropicaux, là où il y a des forêts primaires, notamment, comme on dit, des forêts vierges, enfin, qu'il y a la plus grande biodiversité, et donc le plus grand potentiel d'agents pathogènes. Alors là, quand on dit ça, on dit, bon, mais voilà, c'est simple, on rase toutes les forêts tropicales, et puis on extermine tous les primates, les rongeurs et les chauves-souris, et on sera débarrassé de ce risque infectieux. Qui n'est pas rien, hein, parce que je rappelle quand même que d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, jusque dans les années 1970, il y avait tous les 15 ans une nouvelle maladie infectieuse qui émergeait. Là-dedans, on comptait notamment aussi les maladies infectieuses liées à la résistance aux antibiotiques, hein, ça en fait partie. Et puis, depuis les années 2000, c'est au moins 5 émergences par an. Donc voilà. Et là, on parle beaucoup de la Covid-19. Mais enfin, avant, il y a eu Ebola en 1976, pour donner cet exemple, qui est une maladie virale extrêmement létale, qui tue 60 à 80% des gens qui sont contaminés. Donc c'est bien plus grave que la Covid-19, hein. Ebola qui repart. Il y a des flambées épidémiques. Alors, on voit très clairement dans l'une des études que je cite et l'un des scientifiques donc que j'ai interviewé qui montre que il y a une flambée épidémique d'Ebola en Afrique, en général 2 ans après une activité de déforestation, là où a lieu cette flambée. Le sida, on a oublié, mais le sida, c'est une zoonose, hein, qui provient de singes. Voilà. Et puis après, vous pouvez ajouter le Nipah, le MERS, le chikungunya, le Zika. Enfin, la liste est très longue, en fait, hein. Et nous, on pense que Covid, mais voilà, la liste est très longue. Donc, quand j'en reviens à mes forêts primaires, donc, c'est évidemment pas la solution de les détruire et d'exterminer tous les réservoirs potentiels de ces virus, parce qu'on voit en fait que c'est tout le contraire qui se produit. Et c'est ça qui est assez contre-intuitif, si on veut, hein. C'est-à-dire, on se dit, ben voilà, comment c'est possible? Donc, l'un des mécanismes qui a été mis au jour par plusieurs scientifiques, c'est ce qu'ils appellent l'effet dilution, hein, très important, hein, qui fait que, ben, j'ai donné l'exemple de la maladie de Lyme aux États-Unis parce qu'en fait c'est comme ça que 2 chercheurs américains ont mis au jour ce mécanisme. La maladie de Lyme aux États-Unis, qui concerne beaucoup de gens aussi en France, hein, elle est portée par un rongeur qu'on appelle les souris à pattes blanches. Donc c'est une famille de rongeurs. Bon, en France, ce sont d'autres rongeurs, mais n'empêche que les mécanismes sont les mêmes, hein. Et donc, comme vous savez, ce sont donc les tiques, hein, qui vont, pour se nourrir, mordre un mammifère. Donc, et s'ils mordent évidemment une souris à pattes blanches, ils ont une grande probabilité d'être contaminés par la bactérie hébergée par la souris à pattes blanches. La bactérie qui transmet la maladie de Lyme. Parce que les autres rongeurs, qui ne sont pas des souris à pattes blanches, ne sont pas des réservoirs de la bactérie. D'accord? C'est incroyable, dans le monde du vivant, j'ai découvert ça, hein. Une espèce de spécialisation comme ça. Bon, après, c'est un autre sujet. Il y en a qui essaient de comprendre pourquoi, mais bon, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que, quand une tique morde, enfin, se nourrisse, fait son repas sanguin, eh bien, on limite le risque qu'elle s'infecte par une bactérie? Ben, il faut que la population des souris à pattes blanches soit la plus basse possible, évidemment. Et qu'il y ait plein d'autres rongeurs autour, y compris des écureuils, des tamias, des oiseaux, enfin bref, qui fait que quand la tique, elle se nourrit, parce qu'elle ne fait pas la fine bouche, elle ne va pas chercher la souris à pattes blanches, elle mord ce qui passe par là, d'accord? Elle est plantée, elle a planqué dans les herbes, puis elle attend, hein. Eh bien, s'il y a beaucoup de rongeurs et autres mammifères autour des souris à pattes blanches, eh bien, on dilue le risque, parce qu'évidemment, dès que la tique, elle pique un écureuil qui n'est pas porteur de la bactérie, eh bien, c'est une transmission perdue pour la maladie. Donc, comment on fait pour qu'il n'y ait pas trop de souris à pattes blanches? Eh bien, il faut qu'il y ait d'abord plein de prédateurs, des gros mammifères et tout, qui vont contrôler la population des rongeurs, et y compris celle des souris à pattes blanches. Sauf que quand on déforeste ou qu'on casse une forêt ou qu'on la fragmente, c'est les premiers à partir, les prédateurs, hein, parce qu'ils n'ont plus assez d'espace, ils s'en vont. D'accord? Ensuite, ce qu'on a constaté aussi, c'est que dans la grande famille des rongeurs, qui est une famille absolument incroyable, hein, avec un nombre de, je crois que c'est 2200 de mémoire, hein, espèces de rongeurs, eh bien, les scientifiques ont constaté qu'il y a deux catégories, en fait. Il y a une catégorie qu'on appelle des rongeurs spécialistes. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, c'est-à-dire ils ne mangent pas n'importe quoi, ils sont liés à un type d'alimentation, un type d'habitat, un type d'arbre, un type de. Vous voyez, quand on casse la forêt, c'est les premiers à disparaître parce qu'on détruit leur niche écologique. Et puis, il y a les rongeurs qu'on appelle les généralistes, qui, eux, c'est tout le contraire. Eux, ils prolifèrent, ils se multiplient beaucoup plus vite que les autres. Et eux, ils sont ravis quand on casse tout, parce qu'en fait, à la limite, vous cassez une forêt, vous mettez du soja transgénique, comme un sujet que je connais bien à la place en Argentine ou au Brésil, ils sont ravis parce qu'ils mangent le soja, tout simplement. Et ces généralistes sont en général, c'est incroyable, hein, ce sont eux qui portent les virus ou les bactéries qui peuvent nous poser problème. Et en plus, ils ont une tendance à bien aimer les zones anthropisées, comme on dit, c'est-à-dire ils seraient limite commensaux, comme on dit aussi, c'est-à-dire vivant pas très loin des maisons, enfin, etc., etc. Et ça, c'est très bien démontré, par exemple, pour la maladie de Lyme et pour plein d'autres maladies vectorielles. Et donc, quand il y a une grande biodiversité, en fait, eh bien, on dilue le risque infectieux. Et quand on la casse, eh bien, en revanche, on fait le contraire, on amplifie le risque infectieux. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très peu connu, en fait, hein. Et il y a plein d'exemples, hein. C'est vrai aussi pour l'ulcère de Bouroulis, en Guyane, par exemple. Un chercheur que j'ai interviewé, Rodolphe Gozlan, de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui travaille en Guyane sur cette ulcère de Bouroulis, donc qui est transmis par une mycobactérie aquatique. Et ça, c'est terrible, hein. C'est comme la lèpre, hein. C'est terrible. Enfin, vous êtes défiguré, enfin, etc. Eh bien, on a constaté que quand on est en Guyane, dans la forêt amazonienne, parce qu'on est en Amazonie là-bas, il y a beaucoup de marais, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'arbres et tout ça. Si vous cassez les arbres, eh bien, du coup, il y a plus de lumière qui rentre. Vous réchauffez l'eau des marais. Le fait que c'est réchauffé va entraîner la prolifération d'algues. Le fait que ça soit plus découvert, ben, les oiseaux vont plus facilement manger les poissons qui eux-mêmes se nourrissent du petit insecte, le petit crustacé, en fait, qui porte cette mycobactérie. Et du coup, ils n'ont plus de prédateurs. Il y a plein d'algues dont ils peuvent se nourrir. Hein, et résultat, la mycobactérie prolifère et le risque que vous attrapiez la maladie, l'ulcère de Bouroulis, augmente considérablement. Donc, il y a plein d'exemples. Et donc, la première cause de l'émergence de ces maladies, c'est la déforestation.
cutting, so sublimely. Ma na che lo lia, cheio di magua. Ma decreta un cedo, na felicidade. Gente da foga, na solidão.
Ma na embarcação. Leva-nos vida, bom timoneiro. Nota de seja pagueano na temporada. Nota reabela para não caperte na profundeza de uma amargura.
Longe à vista é um doce promessa, mas que das fazer indiferença. Um sonho nasceu na porta de ilusão, de para longe passei um solução. Mas na rota certa de nos destino,
não tá por esperança, num brisa mansa e constante.
Pinte vela, nos existência, e na paz leva-se-nos não. Um horizonte de luz e bonança. Pinte vela nos existência, e na paz leva-se-nos não. Um horizonte de luz e bonança.
Quitte Cesaria Évora, qui pour Embarcacao était accompagnée de la chanteuse polonaise Kaya, pour retrouver une autre femme de talent, Marie-Monique Robin, tout de suite.
Du poil sous les bras.
Couper des arbres, ça rend les gens malades. Rodolphe Gozlan le dit et l'explique dans La Fabrique des pandémies. La déforestation, c'est cette plaie béante pour la planète qui conclut souvent les actions des hommes. Plus il y a d'élevage intensif, plus on déforeste. Plus on a besoin de monoculture pour nourrir les animaux d'élevage, plus on déforeste. Plus on construit des routes, plus on déforeste. Plus on prend l'avion, plus on déforeste. Et la liste est quasiment infinie. Les activités humaines sont le principal facteur de risque sanitaire. Et on ferait bien de se méfier. Car parasites, virus, microbes et autres agents pathogènes ont de grandes capacités d'adaptation. Ils peuvent changer d'hôte, de conditions de vie. Mettez-leur du soja, ils mangeront du soja. Privez-les de pain, ils mangeront de la brioche.
Un parasitologue, Daniel Brooks, qui est très intéressant, qui travaille sur l'histoire des parasites. Alors, il faut savoir que ce qui est génial quand on interviewe ce genre de personnages, c'est qu'ils sont tous passionnés par leur sujet. Et au bout du compte, vous finissez par adorer les chauves-souris frugivores, d'autres qui sont hématophages. Donc, vous voyez, c'est les vampires, entre guillemets, hein, qui se nourrissent de sang. D'autres, enfin, c'est absolument extraordinaire. On découvre aussi pour les chauves-souris que c'est le seul mammifère volant, donc c'est une extraordinaire prouesse. Moi, je m'étais jamais posé la question de voler quand on est un mammifère. Donc pour ça, elles ont développé un système immunitaire absolument incroyable qui leur permet donc d'être porteurs de plein de virus sans être malade. Et quand on les chasse de leur habitat parce qu'on détruit leur forêt, etc., comme dans le cas du virus Nipah, que je trouve un excellent exemple de ces mécanismes à l'œuvre. Pour le virus Nipah qui est apparu en 1997 en Malaisie, c'est exactement ça. On a déforesté la forêt sur l'île de Bornéo pour mettre de l'huile de palme, enfin des palmiers à huile. Les chauves-souris se sont enfuies, elles sont frugivores, donc elles crevaient de faim. Alors on a constaté que quand elles s'enfuient, elles stressent. Et du coup, elles se mettent à excréter plein de tous ces virus qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes et qui n'étaient pas un problème. Et du coup, ça peut contaminer d'autres animaux sauvages, etc. Comme elles avaient faim, elles se sont rabattues sur les côtes de Malaisie où on avait planté des manguiers. Et comme il n'y a pas de petit profit, c'était à la fois production de mangue et dessous des fermes porcines, des élevages industriels de porcs en plein air. Donc les chauves-souris mangent les mangues, défèquent, etc. Elles contaminent les cochons. On découvre au passage que le cochon, ben, c'est un très proche ami de l'homme, parce qu'on partage 95% de nos gènes avec lui. Donc c'est un excellent pont épidémiologique, c'est-à-dire si vous voulez humaniser un virus qui vient d'une chauve-souris, le meilleur passage, c'est le cochon, parce que là, il va s'adapter le virus et ensuite il sera transmissible aux humains. Et donc, au final, les ouvriers agricoles des fermes porcines ont été contaminés par ce virus Nipah. Enfin, les cochons étaient exportés pour Singapour, parce qu'en Malaisie, on est musulman et on ne mange pas de cochons. Donc, vous voyez toute l'absurdité de tout ça, quoi. Hein, envoyés être abattus à Singapour et ensuite la viande exportée en Chine. Du coup, les ouvriers des abattoirs ont été contaminés. Enfin, voilà. Là, on a tous les ingrédients, quoi. Hein, déforestation. Élevage intensif et globalisation qui fait qu'on balade sur toute la planète des animaux morts ou vivants, d'ailleurs, sans parler des biens de consommation, des humains, enfin tout ça se balade dans tous les sens en permanence. Et ça, c'est ce qui caractérise qui explique qu'il y a des pandémies qui émergent maintenant rapidement, hein, voilà, et comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Et si les chauves-souris défèquent quand elles sont stressées, comme les humains peuvent parfois se pisser dessus de peur, eh bien les végétaux font de même. Le stress hydrique des plantes va les amener, non pas à se faire pipi dessus, mais à adopter des comportements induits par ce stress que génère l'homme, l'homme avec un petit H, hein, parce que quand même, c'est souvent lui le problème.
Le stress, ça se caractérise en général par une baisse du système immunitaire, hein. Donc c'est vrai pour nous les humains, c'est vrai pour nos frères et sœurs animaux, parce que ils sont, comme je vous dis, on partage 95% de nos gènes avec les cochons, 99% avec les chimpanzés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complètement absurde de se dire que on peut maltraiter les animaux et les rendre malades, voilà, et que nous ça ne nous touchera pas, c'est pas possible. Donc c'est ce que dit d'ailleurs ce livre, c'est ce que disent les scientifiques. La santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques et des humains est interconnecté. Et si on ne peut pas avoir des humains en bonne santé si les écosystèmes sont malades ou les animaux sont malades. Donc effectivement, le stress est un facteur très important. On le voit dans plein d'exemples, hein. Par exemple, la grippe aviaire, c'est un autre exemple qui est abordé par plusieurs scientifiques dans le livre, dont un qui travaille pour l'Institut Pasteur à Hong Kong, qui est vraiment une pointure. C'est lui qui a identifié le coronavirus responsable du premier SRAS en 2003, qui a beaucoup travaillé sur la grippe. Et qui me disait, on connaît très bien le schéma, quoi, en fait, hein. On sait que c'est un virus qui vient d'oiseaux sauvages. Et dit tant qu'il y a ces oiseaux sauvages, ben voilà. Mais quand on commence alors, comme c'est le cas en Chine, par exemple, d'attraper des oiseaux sauvages pour ensuite les élever, enfin, parce que c'est très prisé, etc. Et du coup, vous allez contaminer des oiseaux domestiques, là, du coup, des poules, etc. En plus, vous les transportez sur de très grandes distances, vous voyez, ce commerce global qui va faire que tout au long de la chaîne, les oiseaux vont finalement contaminer d'autres oiseaux. Et voilà comment. Et évidemment, si ça rentre dans un élevage intensif de poulets, alors là, c'est une vraie boîte de pétri. Vous savez, les boîtes de pétri, c'est là où on multiplie, on fait des cultures de cellules, hein, voilà. Ben c'est pareil, quoi. Bon, ils sont tous pareils d'un point de vue génétique. Ils ont des systèmes immunitaires très fragiles parce qu'ils vivent dans des conditions horribles. Et donc, vous balancez un virus là-dedans, ben c'est une vraie bombe biologique, quoi. Et donc, voilà. Et on voit ensuite que pour la grippe aviaire, un virus aviaire ne passe pas à l'homme très facilement, en fait. On l'a vu avec la grippe H1N1, la fameuse de 2009. Eh bien, il y avait eu une contamination d'élevage industriel de poulets qui ont transmis ça à des cochons, élevage industriel de cochons, c'est au Mexique, je vous rappelle. Et ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure porte d'entrée pour humaniser le virus. Et effectivement, c'est comme ça qu'après, c'est passé aux humains. Voilà. Donc, les élevages intensifs jouent un rôle aussi très important dans la capacité d'un virus à se multiplier et à passer la barrière des espèces pour ensuite contaminer les humains.
Et j'ai appris plein de choses, moi, dans la fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. Par exemple, j'y ai découvert le concept incroyable de diversité bioculturelle. Et oui, plus il y a de langues, plus il y a de biodiversité. Et tout cela est très logique.
Vous prenez la carte de disparition des animaux sauvages, par exemple. Donc on la voit, hein, où est-ce que la biodiversité animale est la plus menacée. Donc il y a une carte, d'accord. Vous prenez la carte des facteurs, enfin des flambées épidémiques de nouveaux virus, et puis vous prenez la carte de la disparition des langues, la diversité linguistique, hein, donc des langues qui sont parlées par des peuples indigènes, enfin, etc. Eh bien, ces trois cartes se superposent totalement. C'est-à-dire que, voilà, plus on détruit la biodiversité, plus il y a d'émergence de maladies infectieuses, et aussi plus cette diversité linguistique est menacée, parce que c'est là aussi où par exemple des peuples indigènes disparaissent, quoi. Voilà. Donc c'est tout à fait lié. Et c'est lié aussi, ce qui est très très triste dans cette histoire, c'est que alors moi j'adore les langues, hein, j'en parle plusieurs, j'adore ça. Alors déjà ça me rend toujours très très triste de savoir que une langue a disparu, parce qu'avec une langue, eh bien, c'est ce que disent les scientifiques, hein, c'est plein de savoir. Et là, dans le domaine qui nous intéresse, dans le domaine de la protection de l'environnement, mais au sens très noble du terme, c'est-à-dire vraiment protéger nos conditions de vie, vivre en harmonie avec l'environnement dans lequel on est, pour avoir une bonne santé mentale, physique, etc. Eh bien, il y a de grands savoirs qui sont en train de se perdre, hein, et qui sont portés par des peuples indigènes, évidemment. Et quand ils disparaissent, ces peuples et leur langue, c'est tous ces savoirs qui disparaissent aussi, hein, sur leurs relations ancestrales. Et malgré l'adversité, parce que Dieu sait que pour survivre au XXIe siècle, quand on est un peuple indigène, eh bien, ça n'a pas été facile, hein, eh bien, on perd tout ça, on perd tous ces savoirs.
On perd tellement d'informations précieuses, collectées pourtant pendant des dizaines ou des centaines d'années parfois, que même les chimpanzés, aujourd'hui, savent mieux que nous comment prendre soin de sa santé. Ce sont de meilleurs pharmaciens que nous.
Alors ça, c'est un entretien avec une primatologue extraordinaire, une femme géniale, Sabrina Krief, alors K-R-I-E-F, qui travaille pour le Muséum d'Histoire Naturelle et qui mène un projet magnifique en Ouganda, et qui est donc spécialiste des chimpanzés et de ce qu'on appelle la pharmacognosie, c'est-à-dire elle a étudié comment en l'occurrence les chimpanzés, parce que c'est sa spécialité, utilisent des plantes pour se soigner. Et a constaté que, en fait, les villageois d'Ouganda, donc c'est dans le secteur de Kibale, qui est un parc national en Ouganda, eh bien, utilisent aussi certaines de ces plantes de la même manière, quoi. Et en fait, elle s'est rendue compte que, comme les savoirs traditionnels des villageois se perdent, parce qu'on a imposé la médecine occidentale, les médicaments qu'il faut acheter, enfin, etc., etc., eh bien, ces savoirs très importants, parce que du coup, elle a découvert de nouvelles molécules qui ont des potentiels anticancéreux, etc. Elle dit, en fait, ceux qui détiennent maintenant ce savoir, très important pour nous, ce sont les chimpanzés, parce que nous, les humains, on est en train de les perdre, quoi. Et elle a observé les chimpanzés, enfin, je raconte ça dans le livre, c'est génial, quoi. Vraiment, c'est absolument incroyable, quoi. Bon, je raconte pas tout, parce qu'il faut quand même lire le livre, hein.
Et oui, lire La fabrique des pandémies, c'est quand même plus intéressant que de lire Les âneries de Luc Ferry, par exemple. Et puis ça fait 30 ans maintenant qu'on parle de virus émergents devenus plus largement maladies infectieuses émergentes. Et rien ne change. On est toujours malade de notre autosatisfaction. On se laisse croire qu'on gère. Les scientifiques qu'a interviewé Marie-Monique Robin nous alertent tous pourtant. Il faut agir, il y a urgence à changer radicalement nos modes de vie.
Moi je dis quand même que ces scientifiques, ce qu'ils nous disent est une très bonne nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils disent que si on ne fait pas ce qu'il faut faire, nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. Ça, c'est terrible. Ils disaient ça déjà. Moi, j'ai terminé les interviews en juillet. Après, j'ai écrit le livre. Donc, et on voit bien que ça se profile, là. Personne n'a le courage politique de nous dire que nous allons devoir vivre avec ce virus, pour parler que de celui-ci, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre, et c'est bien ça le problème, pendant des années. On commence à le voir, hein. Alors, eux le disaient déjà en juillet et août, nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. En gros, ça veut dire on aura un masque tout le temps dans notre sac et ça va durer et on va nous confiner, nous déconfiner, nous reconfiner. Et je n'ose même pas imaginer ce que ça sera quand s'y arrive un virus bien plus dangereux que le coronavirus. Parce que ce qui ressort de ce livre aussi, c'est que ce coronavirus, il n'est pas très méchant, hein. Évidemment, c'est trop de morts On ne va pas se réjouir de ça, évidemment. Mais il faut remettre ça un petit peu dans un contexte plus large. C'est un virus qui tue moins d'1% de la population. C'est rien, excusez-moi de dire ça, comparé à tous les autres dont je viens de parler, là, Ebola et compagnie. Hein. Je ne parle même pas du sida, enfin bon, voilà. Et ils disent, si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux pour s'occuper des gens à risque, dont on va peut-être parler aussi, parce que ça, c'est toute la partie, les facteurs de comorbidité, eh bien, il vaudrait mieux, à la limite, que tout le monde l'attrape, ce virus. Hein. Comme ça, on se protégerait. Voilà. Enfin, bref. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est que si on ne prend pas les bonnes mesures, on va vivre avec pendant très longtemps, enfin très très longtemps. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Hein. Ils parlent d'épidémie, de pandémie. Hein. En rappelant qu'il y a déjà eu, comme j'ai dit avant, bien d'autres, et qu'il y en a encore bien d'autres qui vont arriver, et peut-être bien plus mortels et bien plus fatales que ce coronavirus. La bonne nouvelle, c'est que ils pointent véritablement les causes de ce qui nous arrive. Et ça remet de la cohérence aussi dans ce que nous vivons. Parce que moi, ce que je constate, on est tous plus ou moins déprimés, enfin, et les jeunes, n'en parlons pas. Moi, je suis mère de 3 jeunes femmes, hein. J'ai beaucoup de nouvelles de cette génération de 20, 30 ans, enfin, entre 20 et 30 ans. Et c'est quoi l'avenir, quoi, enfin. Et puis, vraiment, on va dire, ben, on sait pas, ça va durer, on sait pas. Enfin, vous voyez, c'est horrible. Mais là, au moins, tu te dis, c'est pas complètement le bordel, voilà, il y a quand même des causes. S'il y a des causes, il y a des solutions, vous comprenez? Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, les solutions, eh bien, ça relève du politique. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est dans ce livre pour moi, et puis dans cette parole du scientifique, c'est que, d'abord, ils étaient tous déprimés, hein, vous avez vu, hein, quand je les ai interviewés, ils m'ont laissé l'écrire, parce que c'est vrai. Et c'était même très touchant, parce que comme c'était par Skype, je parlais avec un Australien dans son grenier qui avait aménagé son bureau parce qu'il était confiné, avec un Gabonais qui avait la lésion Skype qui coupait tout le temps parce que évidemment pas trop de réseau. Enfin, décalage horaire, je me mélangeais les pinceaux entre plus 8, moins 6, enfin c'était un dingue. Mais en même temps, ils étaient chez moi, quoi, c'est scientifique, c'était assez étonnant. Et puis tous déprimés de dire, ben on sait ce qu'il faut faire et on prend pas le chemin de ça, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est ce qu'ils disent, c'est tout le dernier chapitre. Hein. Il faut revoir totalement le modèle économique dominant, ça c'est clair, hein, qui fait que on développe des activités économiques sans tenir compte de ce qu'on appelle les externalités en économie, hein, de l'impact sur l'environnement, la santé, etc. Ça, c'est sûr. Il faut absolument développer ce qu'ils appellent une vision holistique, hein, donc globale. On peut pas dire à la Malaisie ou à l'Indonésie, arrêtez de déforester, parce que quand vous faites ça, vous mettez en danger la planète, et, comme on l'a vu récemment avec le gouvernement, acceptez que Total, dans sa raffinerie des Bouches-du-Rhône, importe 500 000 tonnes d'huile de palme d'Indonésie. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ah, faut de la cohérence, un peu, quoi. On peut pas continuer à importer du soja transgénique d'Argentine et du Brésil pour alimenter nos poules, nos vaches et nos cochons européens. Parce qu'évidemment que tout ça, c'est lié. Et moi, je le sais, hein, parce que c'est un sujet que je connais bien, hein, ça. Du coup, le soja transgénique, j'ai filmé ça de long en large et en travers, en Argentine, enfin, partout. En Paraguay, enfin, dans le monde selon Monsanto, dans le Roundup face à ses juges, enfin, voilà. Donc voilà. On peut pas. Donc à un moment, on peut pas avoir un ministère de l'Agriculture qui travaille dans son coin, avec les grands éleveurs, et industriels de France, pour faire venir du soja transgénique. Et de l'autre côté, vous voyez, je sais pas, le ministère de l'écologie qui va dire, ah oui, c'est pas bien de déforester en Argentine, et puis le ministère de la Santé qui, lui, fait ce qu'il peut pour lutter contre les virus émergents. Ça n'est pas possible. C'est ce que disent tous les scientifiques. Et c'est vrai aussi pour la science. C'est-à-dire qu'il faut que la science, elle travaille, enfin, elle aille vers ce qu'ils appellent une science des solutions. Donc, ça veut dire transdisciplinarité. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de travailler dans cette logique de silo. Donc, vous voyez, chacun dans sa discipline. Et je regarde pas ce qui se passe à côté. Je m'occupe des parasites, mais alors les humains, je m'en fous. Comme dit Serge Laurent, qui est un parasitologue, il dit très longtemps, je me suis intéressé qu'aux parasites et les humains, je m'en foutais. Et puis à un moment, je me suis dit non, c'est pas possible. Et en plus, quand tu sais quels parasites ils sont, enfin bref, les humains. Hein. Voilà. Donc ça veut dire transdisciplinarité. Ça veut dire que les organismes qui financent la recherche, eh bien, soutiennent des projets transdisciplinaires pour trouver des solutions aux défis qui caractérisent notre époque. L'anthropocène, le climat, la destruction de la biodiversité, parce que tout ça est lié. Et si on prenait les bonnes mesures, on découvre aussi que ça serait bon pour le climat, et ça serait aussi bon pour la biodiversité, et ça serait aussi bon pour la santé. Donc c'est quand même des mesures très efficaces. Sitna ukrahna
يفرض تغيير، تغيير عميق، نعم تغيير عميق وشامل. أنا فهمت. البطال والمحتال والسياسي. أنا فهمت. نعم أنا فهمت. فهمت الكل.
C'était Emel Matlouti qui chantait Yézi. Et on a encore un petit quart d'heure avec Marie-Monique Robin qui nous le disait à l'instant avant la musique, les mesures à prendre, on les connaît pour lutter contre les causes des pandémies. Du coup, tout miser sur les vaccins, eh bien c'est peut-être une erreur. C'est en amont qu'il faut agir aussi.
Moi, je n'ai pas abordé en détail la question du vaccin, mais ce qui ressort quand même, c'est qu'ils disent « Ok, c'est tout à fait légitime de se dire, là, vu la situation dans laquelle on essaie de trouver un vaccin. Bon. » Ils ont des doutes, certains d'entre eux, sur la possibilité de fabriquer des vaccins aussi rapidement pour des virus ARN qui ont, comme la grippe d'ailleurs, la capacité de muter très rapidement. Et on le voit bien. Moi, quand j'ai pareil, ils m'ont dit ça en juillet-août. Ils le voyaient déjà, ce qui est en train de se produire là. C'est-à-dire tous les variants, etc. Bon, mais ils disent c'est légitime. Voilà. Après, chercher un traitement, c'est légitime. Mais si on ne fait que ça, eh bien, c'est bon pour les laboratoires. Hein, c'est des milliards d'euros, etc. etc. Mais ça n'empêchera pas la prochaine pandémie d'émerger, et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il y a ce qu'un chercheur appelle dans le livre des territoires d'émergence qui se construisent dans le monde, quoi. Qu'est-ce qui fait que, eh bien, à un moment, un virus de chauve-souris ou de rongeur, qui n'était pas du tout un problème, on savait même pas qu'il existait d'ailleurs, donc la preuve que c'était pas un problème, d'un seul coup devient un problème. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et il propose des solutions, hein.
Et puis bien sûr, ne nous leurrons pas. On ne pourra pas sauver la biodiversité si on ne résout pas d'abord la pauvreté et les inégalités sociales.
L'origine de ces pandémies, c'est donc la destruction de la biodiversité et les pressions exercées sur les écosystèmes. Alors évidemment, il y a toutes les activités industrielles qu'on connaît, qui sont bien décrites dans le livre. Hein, on déforeste pour faire de l'huile de palme, du soja transgénique, des monocultures d'EVA ou de l'élevage comme au Brésil. Hein, donc... Et ensuite, on va faire un accord de libre-échange avec le Mercosur pour faire venir du bœuf du Brésil. Ah ben non, c'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on fait ça pour ça. Des mines, on va faire des mines, enfin voilà, etc. Mais il y a aussi la pression démographique, hein, qui fait que dans tous ces pays du Sud, parce que là où il y a plus de biodiversité, ce sont dans les pays du Sud, bien évidemment, les tropiques, mais c'est pays du Sud, ben les gens ont besoin de manger. Moi, je connais bien l'Amazonie. Il y a effectivement les problèmes avec les grands copains de Monsanto qui veulent faire du soja transgénique, vous voyez, etc., etc. Mais aussi plein de petits paysans sans terre. Hein, les fameux paysans sans terre, qui, alors qu'il y a des propriétés qui font des milliers d'hectares, qui veulent un bout de terrain pour nourrir leur famille, et qui vont rentrer dans l'Amazonie, qui vont déforester parce qu'ils ont besoin de bouffer, tout simplement. On voit d'ailleurs la pression sur tout ce qu'on appelle les parcs nationaux, vous savez, les réserves de biosphère, etc. Beaucoup de pression. Ce sont les endroits normalement où les humains n'ont pas le droit de rentrer. Hein. Enfin, on protège, on met sous cloche. D'ailleurs, c'est assez maintenant controversé ça. on en parle aussi dans le livre, des portions de territoire avec tout ce qu'il y a dedans, hein, vous voyez, les lémuriens, les chimpanzés, je sais pas quoi, enfin voilà. Eh bien, là, aujourd'hui, on voit que tout le monde me le dit, les humains entrent dans les parcs parce qu'ils ont besoin de manger. Donc, on peut pas dire à des paysans qui crèvent la dalle, protège la biodiversité, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire comme ça, hein, enfin. Ce qu'il faut, c'est vraiment lutter contre la pauvreté parce que c'est très très important si on veut aussi limiter cette pression démographique sur les écosystèmes. Et d'ailleurs, il est rappelé dans le livre aussi, parce qu'il faut être très clair là-dessus, que le taux de fertilité des femmes est directement lié à leur statut social et donc à leur capacité à nourrir leur famille. Dit autrement, eh bien, c'est la pauvreté qui engendre l'explosion démographique, en fait. Voilà. Et on l'a bien vu dans les pays occidentaux. Bien, le taux de fertilité des femmes a baissé. Enfin, on a fait moins d'enfants. Quand on a pu envoyer les enfants à l'école, enfin, avoir un système de sécurité sociale, enfin, etc., etc. Donc, il faut lutter contre la pauvreté. Et ça, c'est très étonnant parce que tous les scientifiques le disent. C'est un facteur important. Et aussi les inégalités. Parce que vous avez vu un chercheur américain, un mathématicien, qui a fait une étude absolument incroyable, très remarquée en son temps, qui a essayé de comprendre pourquoi des civilisations antérieures à la nôtre avaient disparu, les Mayas, etc., les Mayas au Mexique, etc., l'île de Pâques. Enfin. Et en fait, il a déterminé deux causes principales. La pression sur les écosystèmes, alors ça, c'est ce que nous faisons, très importante, et aussi les inégalités sociales. Le fait qu'une, ils appellent ça les élites, hein, eh bien, les fameux 1%, voilà, on va dire ça aujourd'hui, hein, qui possèdent autant que 3,5 milliards d'habitants, enfin, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 28 milliardaires qui possèdent autant que la moitié de la population mondiale, ou rapporté à la France, c'est 7 milliardaires français qui possèdent autant que 30% des Français. Donc voilà, ces inégalités énormes qui font que, qui entraînent et qui encouragent cette exploitation absolument effrénée des écosystèmes, et, il a montré qu'en fait, finalement, dans l'histoire de ces civilisations, qui disparaissent complètement, hein, donc quand on parle de disparition, c'est l'effondrement, quoi, puis rayé de la carte. Les élites s'en tirent un peu plus longtemps que ceux qu'il appelle les roturiers, c'est-à-dire ceux qui génèrent la richesse, hein, ceux qui bossent, qui disparaissent les premiers, les pauvres. Enfin. Mais les élites, elles pensent être à l'abri. Ah ben non, il y a un petit décalage dans le temps. Il y a un moment, comme il n'y a plus de roturiers pour faire le boulot et produire la richesse dont elles tirent profit, eh ben les élites disparaissent aussi. Voilà. Et là, moi, j'aimerais bien qu'on entende ce message pour ceux qui, enfin, parce que moi, ma grande préoccupation toujours, c'est comment on peut toucher les dirigeants des multinationales, etc. Parce que, voilà, pour que, elles participent de ce changement dont on a besoin, parce que si elles le faisaient, on gagnerait beaucoup de temps, quand même, hein. On n'aurait pas toutes ces résistances permanentes, vous voyez, qui font qu'on perd beaucoup de temps. Voilà. Donc, c'est pas bon. Ce qui se passe là, on est sur un Titanic. C'est clairement ce qui se passe. Et le Titanic, vous savez comment ça se termine. Alors, évidemment, il y en a qui pensent, ceux qui ont beaucoup de richesses, ils vont trouver des petits bateaux pour pouvoir sauver leur peau. Vous voyez? Sauf que non. Ce que disent les scientifiques là, non. Personne ne sauvera sa peau. Peut-être qu'il la sauvera un petit peu plus longtemps que les autres, ceux qui ont beaucoup d'argent, etc. Mais on peut pas vivre sans la nature. C'est impossible. La biodiversité, c'est grâce à elle que nous vivons. Elle filtre l'eau, l'air, elle nous fournit les aliments, enfin, y compris les médicaments. Enfin, c'est incroyable de penser que la biodiversité, on peut la détruire comme ça et qu'il ne va rien nous arriver. Enfin, vous voyez, c'est quand même. Donc, on a vraiment besoin d'une vraie révolution mentale aussi, hein, non seulement économique, parce qu'évidemment, le système économique capitaliste dominant est très clairement va dans le profit, et toujours à court terme et après nous le déluge. Hein, mais là, il faut aussi changer de logiciel mental.
En discutant avec Marie-Monique Robin, je me suis rendu compte que penser solidarité écologique, penser à la nécessité d'une nouvelle éthique planétaire, penser que la biodiversité est au cœur de notre survie, ça ne déprime pas du tout, ça renforce. Et oui, c'est connu, lutter, ne pas s'avouer vaincu, jouer collectif, eh bien ça renforce, toujours. Et ça peut même mettre de bonne humeur.
Moi je dis souvent qu'il faut... Quand on fait le constat que font ces scientifiques, c'est quand même très très sérieux, hein. Il faut quand même s'en rendre compte, hein. Entre le dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, on n'en a pas parlé, mais il y a tout grand chapitre des maladies chroniques, etc., enfin, qui sont ce grand fardeau sanitaire dont on parle beaucoup, très peu finalement les cancers, les maladies neurodégénératives, les allergies, tout ça, qui sont d'ailleurs des facteurs de comorbidité pour les maladies infectieuses émergentes. Donc tout ça, c'est absolument... Et moi, c'était une découverte, ça, en fait. Hein. Voilà. Donc tout ça est très sérieux. Et alors, on pourrait vraiment... Et moi, ça m'arrive, hein, je vous le dis franchement, hein, parfois d'être un peu découragé quand même. Hein, de me dire, on va pas y arriver, quoi. Hein. Mais je réagis toujours en me disant, bon, je dis toujours, gardons le pessimisme pour des jours meilleurs. Hein. Bon, Mathieu Ricard, vous savez, le moine bouddhiste, dit, lui, il est trop tard pour être pessimiste, ça veut dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'en tant qu'humain, mère de famille, citoyenne, même si tous les signaux sont en rouge, il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter que bien l'effondrement justement, hein, qui sera pas un effondrement, c'est dit dans le livre, hein, c'est pas, faut pas s'imaginer que ça va être boum d'un seul coup. Non, 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 c'est un effritement. Alors, pour la santé, par exemple, il y a un des chercheurs qui dit, on va avoir apparaître partout dans le monde des foyers épidémiques de nouveaux virus qui se transmettront ou pas sur la planète, mais qui vont mettre une pression terrible sur les services de santé. Animale et humaine, hein. Donc ça plus le changement climatique, enfin vous voyez les tempêtes, les sécheresses, les gars qui va mettre une pression sur tout, enfin vous voyez ce qui se profile, quoi. Enfin c'est voilà. Alors moi je me dis qu'il faut continuer de bah, de se battre et il faut déjà essayer de s'organiser localement. Moi c'est des films que des livres que j'ai fait avant pour mettre en place cette transition dont on a besoin, parce que d'abord c'est très bon pour le moral déjà, donc c'est une raison suffisante pour le faire, hein, ça fait plaisir, donc déjà c'est bien. Il y a quand même pas trop bonne nouvelle en ce moment, mais quand on se retrouve avec des finalement des gens avec qui on partage des choses, et qu'on fait un jardin partagé, ou qu'on fait, vous voyez, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a plein de choses à faire, hein, un éco-village, enfin qu'on rentre dans une démarche de post-croissance, moi c'est comme ça que j'appelle ça, hein, c'est-à-dire pas toujours plus mais toujours mieux, enfin voilà, et ben on va mieux, donc déjà c'est une bonne raison de le faire, hein. Et puis il faut pas éviter. Alors moi j'encourage les gens à faire de la politique, hein, ça paraît incroyable mais quand même, hein. C'est-à-dire que attention au repli sur soi aussi, parce qu'il s'agit pas uniquement de sauver sa petite peau dans son coin, parce que de toute façon on est dans un grand bateau, donc il faut quand même essayer d'avoir des actions collectives, donc ça passe par la politique, alors des différentes formes, mais voilà, avoir les bons élus, hein, c'est-à-dire qu'à un moment voilà, et ça c'est une autre chose. Et puis comment vous dire, hein. Il faut arriver à se nourrir de choses qui vont faire aussi que on tombe pas dans la déprime. Voilà. Parce que moi, je vois plein de gens déprimés en ce moment. Hein. Il y a plein de raisons de l'être. Hein. Donc, faut essayer. Alors, il y a plein de choses. Hein, on peut faire, enfin, la musique, tout ça. Enfin, c'est important de faire des activités qui font que, vous voyez, on se reconnecte autrement. Voilà. La musique, la méditation, enfin, tout ce qu'on veut. On peut faire plein de choses. Le jardinage, il y a plein de choses à faire qui vont être bons pour la santé, parce qu'on voit bien dans le livre aussi comment la santé mentale et la santé physique, tout ça est très lié, on a oublié, mais voilà. Voilà, sinon moi je prépare un film que je tiens à faire vraiment. Bon, d'habitude je fais le film et puis ensuite il inspire le livre que j'écris, tout ça en même temps, donc là évidemment c'est pas exactement comme ça, le livre d'abord et le film après. C'est un film que... qui sera donc où je vais rencontrer, donc aller rencontrer une vingtaine de scientifiques de ceux que j'ai interviewés pour le livre, avec un montage très particulier, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il soit financé par plein de partenaires. Alors on en a déjà plein, hein, l'UNESCO, l'Office français de la biodiversité, le CIRAD, l'INRAE, y compris l'INRAE, donc hein, l'IRD, la Mutuelle familiale, France Nature Environnement. Le Muséum d'Histoire Naturelle, dans lequel on a fait un joli trailer avec Juliette Binoche, l'actrice qui est donc associée à ce film, et 20% du budget, ce sont les citoyens. Donc je vous invite à aller soutenir le film. C'est un préachat de DVD, hein, donc c'est 30 euros préachat de DVD. C'est un petit peu comme la MAP, vous savez, vous payez à l'avance votre panier pendant 6 mois, ça permet de faire le film dans de bonnes conditions. Mais au-delà de l'argent, qui est important évidemment, parce qu'on va faire un beau film, parce qu'on veut que ça soit, on va aller dans les endroits où il y a encore beaucoup de biodiversité, comprendre tous ces mécanismes que j'ai racontés, mais on voudrait créer vraiment une communauté de citoyens qui s'emparent de ce sujet de la biodiversité, voilà. Et pour qu'à terme, une fois que le film a été diffusé, à terme le film soit en libre accès dans les 8 langues de l'UNESCO, donc plus de droits d'auteur. En fait, j'organiserai le piratage, parce que tous mes films sont piratés, mais là au moins c'est moi qui le ferai. Vous voyez, mais d'abord, faut l'argent pour faire le film, faut qu'il passe sur des chaînes, faut respecter quand même, voilà, il faut qu'on arrive à avoir l'argent, mais très vite, c'est ça qu'on veut, et qu'il soit un outil, quoi, qui serve et voilà, qui donne envie aux gens de se mobiliser, vous voyez. Donc voilà, c'est ça mon projet. Donc ça, c'est très urgent pour nous parce que j'espère pouvoir commencer à tourner. Je dois partir au Mexique normalement bientôt, si j'arrive à monter dans un avion. Alors évidemment, ça, c'est pas, y a rien de sûr parce que c'est assez compliqué en ce moment. Mais voilà. Alors ça, c'est le projet. Ça va me prendre plus d'un an, hein, si j'arrive à le faire, le film, parce que j'espère bien. Et puis après, on verra.
Et puis bien sûr, avant de quitter Marie-Monique Robin, eh bien je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ses poils. Est-ce que pour elle, c'était un sujet ou pas ?
Enfin, moi, c'est marrant parce que moi, j'ai fait 5 ans d'études en Allemagne, de 1977 à 1982, et avant de faire une école de journalisme en France, enfin bref. Et en Allemagne, donc c'était la fin des années 70, c'est les mouvements alternatifs, c'était les communautés, enfin c'était le mouvement pacifiste, enfin c'était un mouvement, l'émergence des aussi du parti des Verts allemands, hein, à l'époque, mais avec plein d'initiatives, finalement on dirait de transition aujourd'hui, hein, c'était. Et donc la caricature, et moi quand je suis revenu en France, j'étais comme une baba cool allemande avec les poils sur les jambes, et tout le monde se foutait de moi en disant mais ah voilà, ça c'est vraiment la baba cool allemande. Donc voilà. Donc moi, ça n'a jamais été, comment dire, en fait, j'y pense pas, quoi. On est comme ça, on est, voilà. Vous voyez? Donc, c'est tout. C'est pas un sujet, vraiment, pour moi. Voilà.
Et voilà, c'est fini pour Du Poil sous les bras. J'espère que Marie-Monique Robin vous a donné envie, vous aussi, de protéger la biodiversité. Et si vous voulez donner envie à d'autres, eh bien n'hésitez pas à partager cette émission, bien sûr. Vous trouverez des liens vers le podcast sur les sites des radios partenaires, sur SoundCloud aussi, sur iTunes et ailleurs aussi. Et puis si vous voulez en savoir plus et soutenir les projets de Marie-Monique Robin, eh bien rendez-vous sur m2rfilm.com, le site de sa société de production. Vous y trouverez notamment un lien pour soutenir le film La Fabrique des Pandémies. Vous pourrez aussi découvrir le trailer qui a été fait sur ce film, un très joli trailer avec Juliette Binoche, voilà, entre autres. Et puis un dernier mot pour vous dire aussi que tout au long de cette émission, les petites notes de musique que vous avez entendues, eh bien c'était Vivaldi, vous aurez reconnu Les Quatre Saisons, avec la participation de la nature.